pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous voulez vous décrire très brièvement peut-être votre background, peut-être Corentin, si tu veux commencer ?
Ouais, d'accord. Bah, moi, du coup, je m'appelle Corentin Loubet, je suis designer. Donc là, actuellement, je suis en doctorat à l'ENSA de Lab, dans le groupe de recherche Reflective Interaction. Et donc, je travaille avec Philippe et Samuel Bianchini aussi, voilà, sur les objets à comportement.
D'accord. Ensad Lab qui est...
Ensad Lab qui est le laboratoire de recherche de l'École des arts décoratifs à Paris.
D'accord. Merci.
Bonjour, je m'appelle Philippe Païs. Moi, je viens plutôt du... avec un background d'art. J'ai fait une école d'art au Portugal il y a longtemps. Ensuite, j'ai enchaîné sur un master en art et politique à Sciences Po, Paris. C'est à ce moment-là que je travaille aussi avec Samuel Bianchini à l'ENSAD Lab, donc, où j'ai commencé mon doctorat. Après, j'ai travaillé avec lui sur les questions des objets à comportement, plutôt à la frontière entre l'art et le design. Aujourd'hui, je travaille aussi sur une question qui approche les super-objets, qui vient justement de cette lignée de pensée des objets à comportement. Je suis enseignant-chercheur dans plusieurs écoles, au RCA, à Londres, à LCC, à Londres aussi, et je suis chercheur associé à l'Inside Lab actuellement.
Sofiane Audry, je suis artiste en art numérique, professeur à l'École des médias de l'UQAM, rattaché au programme de médias interactifs et de la maîtrise en médias expérimentales et du doctorat en communication. Et je suis également à la co-direction du réseau Hexagram. Mon travail artistique porte sur l'exploration d'agents ou d'agentivités hybrides qui sont un peu à la frontière entre l'humain et le non-humain. Et je m'intéresse aussi à travers ça, à travers une démarche de recherche-création, aux pratiques qui, justement, mettent à profit les comportements d'agents artificiels ou d'agents naturels, entre guillemets. Donc, un peu d'essayer de comprendre qu'est-ce que sont ces pratiques et comment les artistes travaillent avec ces technologies et ces agentivités et proposent une manière, en fait, différente de ce que les scientifiques et les ingénieurs proposent comme, justement, approche par rapport à ces agents artificiels.
Actuellement, vous collaborez autour d'un module de recherche en laboratoire qui s'intitule « Superobjet, une approche au-delà de l'humain pour l'intelligence artificielle ». Pourriez-vous nous présenter votre module et vos travaux
Donc, les superobjets, comme je viens de dire, c'est un enfant des objets à comportement. Une note très rapide sur les objets à comportement, ce sont des objets normalement tangibles qui peuvent nous entourer, qui peuvent être des chaises, des fenêtres, des choses qui nous entourent chaque jour, mais qui montrent des comportements. Ces comportements, normalement, sont exprimés par le mouvement. Donc il y a évidemment une liaison forte avec la robotique, et il y a cette idée de penser la robotique non comme on l'a fait pendant des années et des années, notamment dans les représentations des films de science-fiction, le robot en tant que similaire à l'humain avec une forme anthropomorphe, avec une tête, des bras et un corps, mais le robot qui peut être partout. Une chaise peut être robotisée, une table peut être robotisée. Et voilà, on a commencé aux Arts Déco, surtout Emmanuel Equins et Samuel Bianchini commencent à travailler sur une cartographie dans l'histoire de l'art et du design pour comprendre comment l'idée de comportement a commencé à se développer depuis des années 50-60 avec l'émergence de la pensée cybernétique. Et donc, le super objet vient. C'est une suite, pour moi, assez logique des objets à comportement. On a, par exemple, pour citer un exemple de Jeppe Hein, designer, artiste danois, il a une sphère métallique, c'est une installation artistique, voilà. Et on entre dans un espace, il y a cette sphère qui bouge de façon assez aléatoire et on projette tout de suite une sorte de comportement d'agressivité parce qu'on a peur, on a une fascination par cette sphère. Mais le super-objet a une autre préoccupation. Le super-objet n'est pas juste un objet qui bouge dans l'espace, qui montre un comportement, mais c'est un objet qui a une mission. Qui a une mission de sauver le monde. C'est un objet qui est connecté à Internet, par exemple, qui va récolter des données. Là, je peux donner un exemple un peu plus clair d'un projet brésilien qui s'appelle Code of Conscience. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il existe un microcontrôleur qui est installé dans des tracteurs, des véhicules qui vont dans l'Amazonie pour couper le bois, pour le ramasser. Et ce qui se passe, c'est que cet objet-là est connecté sur un réseau GPS. Et quand le tracteur s'approche de la forêt, de l'Amazonie, en fait, il s'arrête. Le tracteur ne bouge plus. Donc il y a ici clairement une intention politique, une intention écologique de protéger la forêt. Et il y a aussi une dimension très importante pour le super-objet. C'est un objet qui peut désobéir l'humain. Et c'est dans ce sens-là que le titre, au-delà d'une approche de l'humain, a un sens, puisque normalement, on pense toujours l'intelligence artificielle, le design en général, comme centré sur l'humain. Donc il y a même ce titre-là très présent, User Experience Design, Human Centered Design. Donc on est très souvent préoccupé par l'humain, mais on ne se préoccupe pas par ce qui est au-delà de l'humain. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a invité Sofiane, qui a quand même une approche très intéressante de l'AI, du machine learning, et qui travaille avec nous depuis un moment sur les objets à comportement, sur des workshops qu'on a développés à Paris, et aussi Corentin, qui commence un doctorat avec nous, pour travailler autour de cette idée. Comment on peut penser les objets au-delà d'humain, au-delà d'une utilité qui est toujours centrée sur l'humain, qui est toujours pensée pour servir l'humain. Là, ces objets-là, ils vont servir l'environnement en général. Ils vont chercher un équilibre qui peuvent aller jusqu'à désobéir à l'humain. Et c'est là que c'est un peu radical, mais c'est une proposition qui est, pour moi, très importante de penser que on doit aller au-delà du technosolutionnisme aujourd'hui, on doit penser ce moment-là où on est, qui est quand même assez important.
En fait, tu parlais, Philippe, de ce concept. Moi, je dois dire aussi que j'ai été introduit à ce concept hier. Hein. C'est un concept que Philippe a amené à la table et je le trouve vraiment intéressant. Et je me disais, tu m'arrêteras si je me trompe, Philippe, je vais proposer quelque chose, mais j'ai l'impression que je vois là une extension aussi du concept de Michel Serres de quasi-objet. Donc, Michel Serres donne l'exemple, par exemple, du ballon de foot. Imaginez un match de foot. Qu'est-ce qu'on voit, en fait? On voit toutes sortes de comportements, toutes sortes de choses qui se passent autour du ballon. Il dit, le bon joueur de foot, il ne joue pas avec le ballon. C'est le ballon qui joue avec lui. Ou avec elle. Et il dit, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce qu'on va voir quand on va voir un match de foot? Pourquoi on est tellement attiré par un match d'équipe? C'est qu'on voit le lien social. On voit l'exercice d'une communauté. Et qu'est-ce qui crée cette communauté? Qu'est-ce qui crée cette dynamique? C'est le ballon. C'est pour ça qu'il dit, c'est un objet, le ballon, mais c'est un quasi-objet, où on pourrait presque dire, où les joueurs sont des quasi-sujets. Donc, il y a une espèce d'agentivité. Mais Serres n'avait pas pensé nécessairement, je pense, en tout cas, pensait pas nécessairement à des robots ou des objets qui pourraient avoir vraiment des formes d'agentivité, de comportement eux-mêmes. Puis, je vois que peut-être dans ce concept de super-objet, il y a là, justement, cette mise à jour, cette extension de cette idée que finalement, en se mettant en présence aussi d'objets qui sont presque à ce moment-là des sujets, parce qu'ils ont une volonté aussi individuelle ou qui va au-delà de ce que l'humain peut-être souhaiterait, ben ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles potentialités. Moi, ce que je pense aussi, c'est que, et on le voit en fait à travers cet atelier-là avec le MisBeKit, le kit robotique avec lequel on travaille, c'est qu'il y a une forme de matérialisation de la pensée en fait. C'est que la pensée, elle n'existe pas dans le discours. Elle n'existe pas dans une espèce d'éther. Elle existe à l'intérieur de nous. Elle existe dans nos réseaux de neurones. Elle existe dans la matière qui nous entoure et dans les comportements de ces objets ou des robots. Mais on peut penser à toutes sortes aussi de formes d'agentivité qui existent sur le web ou même à l'intérieur de l'institution. Je pense que ça peut s'appliquer à plusieurs choses. Mais je vois qu'il y a comme quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là, ce potentiel de penser, de réfléchir à l'aide ou en tout cas en discussion ou en, je dirais pas jusqu'à dire en collaboration, mais en tout cas en échange ou en apprivoisement aussi peut-être de ces super objets.
Absolument, je pense que tu touches à un point qui était très, qui était une inspiration, qui était une référence d'ailleurs. Je ne l'ai pas mentionné parce qu'il y a tellement de choses à se dire à ce propos des super-objets, mais à la base, la notion de super-objet est extrêmement inspirée par les objets à comportement, mais aussi par une lecture que j'ai faite de José Saramago, un écrivain portugais qui a un livre qui s'appelle « Quasi-objet ». Au même moment que Michel Serres a écrit Parasite, là où il mentionne la notion de quasi-objet, qui a été repris après par Bruno Latour, José Saramago, en 78, écrit ce livre-là, qui parle justement d'une société où les objets prennent vie. Ils commencent à se rébeller. Ils deviennent des objets politiques, en fait. Ils deviennent des objets qui cherchent la révolution, qui cherchent à se libérer de l'emprise du pouvoir humain pour gagner leur propre vie. Pour moi, ça a été ces deux choses-là, les objets à comportement qui sont des objets tangibles, qui existent et qu'on peut interagir avec, et cette fiction, pour moi, a fait un triangle avec la pensée aussi de Michel Serres et de Bruno Latour, qui a été fondamental d'ailleurs, qui est dans une publication, la première publication autour des super objets. Après, comme tu le dis aussi, là on est dans une nouvelle étape, puisque les objets, ils ont beaucoup plus d'agentivité. Aujourd'hui, on trouve des objets qui ont de plus en plus de pouvoir, de plus en plus aussi de responsabilité. On est entouré par ce qu'on appelle de façon un peu bizarre, je trouve, les smart objects, qui ne sont pas vraiment smart encore. Un jour, peut-être, ils sont. Mais on trouve beaucoup plus de pouvoir dans ces objets que l'on trouvait avant. Voilà, dans notre espace domestique, on voit comment les fenêtres et la domotique a quand même un pouvoir de plus en plus prenant. Dans plusieurs pays, on voit ces développements de façon marquée. Et on peut imaginer très bien ce futur où les objets commencent à avoir une vie, à communiquer entre eux, à avoir de plus en plus de pouvoir et à prendre leurs propres décisions. Et c'est là, dans ce futur, qui pour moi est assez proche déjà, que le super-objet a un lieu et qui peut commencer à s'articuler avec ces problèmes qui nous entourent, de réchauffement climatique par exemple, et de comment la pollution qui est autour de la maison peut déterminer tout un comportement qui peut être assez radical de ces objets envers l'humain, envers la personne qui habite la maison. Mmh. Jusqu'à les enfermer ou jusqu'à fermer les fenêtres et ne pas les laisser ouvrir pour les protéger. Et c'est un peu entre la réalité et la fiction que le super objet se situe.
Du coup, en fait, on savait pas tellement comment allait se passer le workshop, donc on avait commencé à réfléchir un petit peu, Philippe et moi, à un projet à expérimenter sur place. Donc en fait, on avait imaginé là travailler sur une radio ou en tout cas un objet qui diffuse du son. On avait pensé aussi pourquoi pas un Google Home, un assistant vocal comme ça, en l'occurrence une radio, qui refuserait de jouer ce que lui demande l'utilisateur. Donc là, il y a vraiment le côté désobéissant qu'évoquait Philippe tout à l'heure, qui refuserait de jouer de la musique ou autre chose en fonction des comportements qu'elle observe au sein de la maison. Donc ici par exemple, le fait de voir que l'utilisateur, enfin que l'habitant va mettre la clim alors qu'il fait pas particulièrement chaud, la radio du coup changerait ce qu'elle est en train de diffuser pour diffuser quelque chose en lien avec ça et donc éventuellement avoir un impact sur la conscience ou le comportement de l'usager.
Je je trouve ça assez curieux, vos super objets que vous proposez. C'est des super petits dictateurs, j'ai l'impression. Hein. Ils nous ferment les fenêtres, ils nous... Bref.
Je pense que t'es pas très loin et des objets dictateurs, ce serait quelque chose à prendre note parce qu'on n'est pas loin, justement. Et on a déjà des petits objets technologiques dictateurs aussi aujourd'hui, mais qui sont des dictateurs assez soft, puisque on est quand même dépendant d'énormément de technologies aujourd'hui et on voit à quel point on se sent mal quand on perd son smartphone dans le taxi, par exemple. Et on voit à quel point ces objets sont là tous les jours à déterminer les rythmes, à déterminer aussi la façon dont on travaille, de plus en plus accéléré. Donc il y a déjà un rapport qui est quand même... à mon avis, un peu problématique. Je pense qu'on va développer nos rapports avec la technologie, on va améliorer, j'espère, de plus en plus. Mais je pense que tu touches un point, c'est vraiment de penser vraiment si on arrive en extrême. Si on arrive en extrême et on a ces super objets qui sont effectivement qui déterminent et qui dictent la façon de vivre et la façon dont on va interagir avec notre milieu. Et après, parfois être empêché de faire certaines choses. Voilà, donc le côté désobéissance est quand même très, très important.
Est-ce que vous pourriez nous parler de la technologie que vous utilisez ? Tout à l'heure, Sofiane, tu parlais du Miss Bikit. Qu'est-ce que c'est au juste ?
Ben, je pense que je vais laisser Philippe répondre. C'est lui, surtout, qui a été au cœur du développement de ce projet.
Rapidement, le Miss Bikit, c'est un kit de robotique modulaire qui a été créé en 2012-2013 à l'ENSAD Lab, Paris, justement en réponse au projet Objet à comportement. Puisqu'on observait tout un tas de références très intéressantes, l'histoire de l'art, du design, et on se disait, mais il y a quand même de la technologie qui est quand même un peu développée, il y a de la robotique, il y a du logiciel, il y a tout un tas de choses qui sont assez complexes. On se disait comment on pourrait être dans une démarche de faire, plutôt que juste regarder, d'étudier ces œuvres-là, comment on pourrait aussi faire ? Vraiment, on est sur une ligne de recherche-création où la pratique a une valeur très importante et sans doute que le kit vient valoriser cette pratique. Comment on peut faire et réfléchir et faire et réfléchir donc dans un feedback loop assez permanent. On est en train de faire là, comme tu disais Sofiane, je pense qu'il y a aussi cette valeur ajoutée de rendre tangible un objet pour penser, pour rendre aussi visible une pensée. Ce type d'objets spéculatifs, ils n'ont pas de fonction concrète dans la société, mais ils ont la fonction, c'est de faire penser, peut-être, d'anticiper des futurs proches. Et du coup, le kit est donc quelque chose assez simple. C'est une espèce de Lego de haute définition. On l'appelle Lego de haute définition puisqu'on utilise le Velcro. On utilise des Velcro et toutes les pièces, les moteurs, les capteurs, les parties structurelles, elles sont toutes habillées en Velcro, ce qui permet un assemblage très rapide, flexible, qui est bien sûr pas très résistant. On l'utilise pour prototyper, mais qui rend les choses quand même très simples, les assemblages assez rapides. C'est très intéressant, voilà, comme objet de prototypage. On a quelques capteurs, des moteurs, etc. Et aujourd'hui, on essaie aussi de développer une version un peu plus écologique en intégrant du bois, du bambou, etc.
C'est ça, si je peux ajouter, parce que moi, j'ai découvert le kit à travers justement des workshops, des ateliers que j'ai faits avec l'ENSAD Lab, notamment le labo public qui avait eu lieu, je pense que c'était en 2019, au Pompidou. Sur lequel un peu le lab public ici est inspiré. Ce que je trouvais intéressant avec ce kit, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de robotique quand même comme artiste, et tous les artistes qui ont travaillé avec la robotique vous diront un peu la même chose. C'est génial, c'est super la robotique, on veut toujours y retourner, mais quand on est dedans, il y a toujours un moment donné où on se dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai encore pris cette décision de faire un projet de robot? » C'est extrêmement difficile, il faut savoir que les robots, déjà, c'est compliqué, donc arriver à une version fonctionnelle qui va aussi fonctionner sur la durée, c'est extrêmement difficile. Par contre, ça présente tellement de potentiel, justement une articulation directe dans le réel. Donc, il y a une possibilité réelle de changer la société, l'espace, l'architecture. Philippe mentionnait ce projet avec la boule métallique qui fonce dans les gens, qui même détruit un peu les murs. Et on peut penser à des projets de robotique aussi de Rob Sanders et Petra Hemenbeuk qui ont fait un projet avec des robots qui percent à travers la paroi du mur et qui essaient d'observer le public. Il y a vraiment une capacité comme ça très forte aussi. C'est très évocateur. Par contre, très difficile. Et le kit, en fait, rend accessible très rapidement l'articulation comme ça de forme de manière très libre. On peut agencer des morceaux avec ces pièces qui sont enduites de velcro et construire très rapidement des objets à comportement et ensuite explorer, les animer à l'aide d'un logiciel. Il y a vraiment quelque chose de super. Moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose de très porteur et qui pouvait aussi, pour moi, dans ma recherche, me permettre d'explorer, d'essayer de comprendre justement comment on pouvait, avec des comportements, puis en particulier en intégrant des approches en apprentissage automatisé, comme soit l'apprentissage supervisé, non supervisé, ou l'apprentissage par comportement, qui est la forme de machine learning avec laquelle je travaille en ce moment. On pouvait explorer comme ça peut-être des nouveaux types de comportements, des comportements qui pouvaient aussi se modifier dans le temps, parce que c'est des comportements adaptatifs. Et donc, ça a ouvert la porte. Moi, j'ai deux projets de recherche en ce moment où on travaille avec le kit. Donc, on s'est remis aussi à travailler ensemble depuis cette année-là sur peut-être aussi pousser ce kit encore plus loin, autant au niveau logiciel qu'au niveau matériel. Et aussi, pour terminer, j'avais trouvé très inspirant, et j'ai intégré ça aussi dans ma recherche, cette idée d'atelier. Donc, de travailler comme ça, sous la forme d'atelier, il y a un aspect de recherche participative. Donc, on a vraiment des gens qui viennent, qui sont des créateurs, qui viennent de différents domaines, donc c'est très interdisciplinaire, et qui, à travers cette matérialisation directe, ces ateliers hands-on, là, vraiment, viennent à justement réfléchir ensemble, mais réfléchir en intégrant directement cette matière dans la réflexion. C'est vraiment la force, en fait, de ce kit, c'est cette capacité-là de aussi à faire le modèle de recherche participative des workshops qui me semble une approche vraiment gagnante en recherche-création là, pour arriver à non seulement à comprendre les pratiques, mais peut-être aussi à développer des nouvelles idées.
Juste pour terminer, peut-être sur le nom Miss Pickett, qui vient de misbehavior, puisque cette idée est très centrale. L'idée d'un comportement qui n'est pas prévisible, qui peut être un mauvais comportement, même de la matière, est très intéressant et qui est pas normalement cherché par les roboticiens. On cherche à tout maîtriser, alors qu'avec ce kit, puisqu'il est très flexible, etc., on arrive à des comportements parfois qui sont complètement imprévus. Et ça, c'est très important pour nous aussi.
D'accord. Le caractère expérimental du comportement vous intéresse à travers la notion donc de désobéissance, voire d'évolution dans le temps, d'adaptabilité, etc. Est-ce que dans la radio, le prototype radio dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est aussi Miss Bikit que tu utilises
Ah oui, totalement. Ouais, bah, sûrement notre outil, là. Ouais, j'ai préparé une espèce de prototype qui intègre les outils de Miss Bikit, donc les moteurs et tout ça. Et au-delà de ça, on essaye de voir aussi comment le connecter à d'autres logiciels, bah, un peu comme disait Philippe, pour étendre les possibilités. Quoi. Donc là, on essaye de voir pour le connecter à Touch Designer, pour gérer du son aussi, et aussi de voir comment récupérer des données sur Internet directement pour influencer les mouvements des moteurs et tout ça.
Ouais, beaucoup de modularité. Ouvrir le système, là.
C'est ça.
Peut-être pour conclure, nous sommes donc à la deuxième journée du laboratoire. Concrètement, sur quoi porteront la suite de vos expérimentations? Qu'est-ce que vous allez tenter de produire donc pour la restitution de demain?
Juste rapidement, sur cette table, il y en a un peu, normalement 3 projets qui, j'espère, verront le public, donc le public pourra découvrir. Donc la radio de Corentin, il y a aussi un projet de Sofiane et José. Je vais te laisser décrire un petit peu. Il y a un troisième projet de Elodie et de Natalia qui travaillent sur la question des la déforestation causée par les humains et de comment on peut créer une visualisation. C'est pas directement un super objet, je dirais, telle que qu'on l'a définie, mais c'est plutôt une visualisation de la déforestation. Donc elles essayent de travailler sur un système qui collecte des données sur Internet, sur un site Open Data, qui voit les arbres qui vont être abattus. Et en fait, il y a un petit robot qui va visualiser cela avec un spray qui va... puisque normalement, les arbres qui sont marqués avec un spray rouge sont les arbres qui vont disparaître. Du coup, elles essaient de vraiment faire une visualisation avec cette traduction en temps réel, avec ce petit robot qui va commencer à faire des peintures un peu partout. Donc il y a un côté un peu désobéissant, aussi un peu subversif. Et je te laisse peut-être parler de votre projet.
Oui, rapidement. Ce projet sur lequel je travaille avec José Brouillard, qui est aussi membre du réseau Maman étudiante. On a identifié un problème épineux, un wicked problem, qui est l'augmentation des problèmes de santé mentale, de dépression, d'anxiété. On est parti sur un truc, donc c'est très itératif. Je ne sais pas où ça va nous mener pour le moment, mais on est parti sur l'idée d'avoir un robot, un petit objet qui pourrait déjà nous donner du réconfort. Mais en même temps, on s'est dit, si ce n'est que du réconfort, on risque de rester, peut-être devenir dépendant aussi à cet objet. Donc, il y a deux espèces de mains, une petite mitaine qui nous frotte dans le dos. Puis après, il y a une espèce de griffe qui, de manière un peu aléatoire, va nous donner une petite tape, une petite claque derrière la tête. Puis ça fonctionne assez bien. J'ai essayé le dispositif tout à l'heure. Ça réveille. On se rend compte, c'est que finalement, la petite mitaine, à la longue, elle vient qu'à nous taper un peu sur les nerfs. Puis la petite claque, elle n'est pas trop forte. C'est pas tout à fait défini. Déjà, ça commence à se comporter un peu de manière non intentionnelle de notre part. Je pense que peut-être la prochaine étape, ce sera de le connecter sur des données. Je sais pas quel type de données. Ce sera peut-être lié au taux d'inflation ou de à la montée du taux d'escompte. Je sais pas. Ou à la température, la température de l'atmosphère. On verra.
OK. Bon, en tout cas, on comprend bien comment les projets se répondent les uns avec les autres et la communauté que ça crée. Hein. Tu nous parlais tout à l'heure de l'émulsion, le fait de travailler en collectif. Ben, j'ai l'impression que ça fonctionne aussi comme ça pour vous autour de votre table avec tous ces projets qui vont éclore et qu'on aura l'occasion de voir demain. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. On était ravis de vous accueillir et on vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.